Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech Télévision. On vous résume généralement l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et on est là toutes les semaines pour vous expliquer ce qui s'est passé d'important dans ce monde si essentiel de la tech. Mais aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent, un épisode spécial d'été où on va explorer un sujet très spécifique et on va essayer de le décortiquer pour en comprendre un petit peu plus. Aujourd'hui, on parle de design et de design industriel. Et je suis très heureux de recevoir pour cet épisode et pour ce sujet une personne qui va pouvoir tout nous expliquer parfaitement bien, à savoir Arthur Kenzo. Bonjour Arthur, comment ça va ?
Salut Patrick, ça va très bien. Bonjour de la Silicon Valley. Ici, il est 7h du mat et le ciel n'est pas bleu. Il ne fait pas beau. C'est plutôt rare ici en Californie, mais c'est fréquent en été.
Oui, bah écoute, je ne vais pas non plus trop te plaindre. Hein, en Californie, c'est quand même l'avantage, c'est la météo. Donc juste aujourd'hui, c'est un temps idéal, on va dire, pour venir enregistrer un podcast à l'intérieur. Merci d'être avec nous et peut-être que certains auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Et peut-être même avant ça, préciser que, comme je le disais, on va parler de design et design industriel et on va essayer d'explorer un petit peu toutes les étapes de ce qui part d'une idée ou même d'un but, d'un objectif, et peut-être que même ça, il faut le définir, jusqu'à un produit au final. Mais oui, du coup, voilà le sujet qu'on va traiter et puis essayer de comprendre comment on arrive finalement à des objets qui sont ce qu'ils sont et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont. Arthur, qui es-tu? D'où viens-tu? J'ai presque envie de continuer la chanson de Goldorak, comme ça, pour ceux qui connaissent, mais je vais m'abstenir. Dis-nous tout, Arthur.
Donc, comme tu l'as dit, je suis designer industriel. Je design des produits physiques, particulièrement des produits électroniques centrés sur la tech. Alors, mon parcours, je suis français, hein, j'ai grandi sur la côte ouest aussi, à La Rochelle, et j'ai étudié à l'école de design de Nantes. Et donc, je design des produits technologiques depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai designé pour beaucoup d'entreprises, des grosses boîtes comme Samsung, Cisco, PayPal. J'ai aussi fait beaucoup de travail pour des startups américaines, des startups françaises et des startups chinoises. J'ai aussi vécu en Chine avant. D'ailleurs, j'ai designé tous les produits de August, clin d'œil à Jeff Clavier qui a investi dans la startup. Et plus récemment, donc, je travaille pour Google. Je design des produits physiques pour Google depuis 4 ans et j'ai cofondé aussi une startup nantaise qui s'appelle Beam Energy.
Tu peux nous donner quelques exemples de produits que tu as designés, que les auditeurs pourraient connaître ?
Pour Samsung, j'ai designé la Frame TV, donc la Frame. Je pense qu'en France, ça s'appelle
aussi
comme ça.
Oui, c'est The Frame. C'est cette télévision qui ressemble vraiment à un cadre, c'est ce que veut dire Frame, donc à un cadre de tableau, une peinture, quoi.
Exactement, donc un projet qui paraît très simple, mais qui a pris des années à designer. À la fois le produit physique, l'expérience, l'interface, donc un énorme projet pour rendre toute cette expérience cohésive, produit jusqu'au marketing.
Et je vais être très mal poli, je vais t'interrompre déjà tout de suite, parce que tu dis un truc qui est très vrai. Un truc comme la télé The Frame, c'est hyper simple, c'est 4 languettes de bois, on a l'impression, qui entourent l'écran, et on a tendance, pour certains, on pourrait avoir tendance à se dire, attends, 4 languettes de bois, c'est bon. Le truc qu'on dit parfois de certaines œuvres dans le domaine de l'art, attends, mon fils de 4 ans, il fait pareil, ou ouais, là, tu me donnes 4 languettes, je les mets ensemble, c'est bon, j'ai fait 2 frames, ha. C'est marrant parce que quand on voit le produit fini, c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir. Mais du coup, pourquoi est-ce que c'est pas si simple que ça? Je sais pas si on peut se lancer dans la discussion déjà. On reviendra aux autres produits que tu as designés juste après. Mais pourquoi est-ce que c'est pas aussi simple que ça? Est-ce que tu peux nous le dire en 2 minutes?
Donc, c'était environ il y a 6 ans. Déjà, pour arriver à ce moment où on a défini la frame comme concept, il nous a fallu quelques mois de réflexion déjà, dans le contexte de Samsung, qui est une énorme boîte, qui fait des télés. On avait une problématique qui était très simple, c'était comment corriger ce problème inhérent aux télés, qui est une télé, quand on ne la regarde pas, c'est un gros rectangle noir dans la maison, okay, dans le salon, c'est inévitable, c'est tout ce que les télés sont, et comment on peut corriger ce problème. Et donc, à partir de là, il y a énormément d'idées qui sont venues, et la frame en faisait partie. Et la frame, c'était même pas une frame à ce moment-là, c'était une réflexion sur est-ce que la télé peut devenir une œuvre d'art quand on la regarde pas.
Ça part de beaucoup plus loin, parce que quand on voit le résultat, on peut se dire « Ah ben les gars de Samsung sont venus te voir, ils t'ont dit « On voudrait une télévision qui ressemble à un cadre pour un tableau », mais c'est pas ça du tout. En fait, la question à la base, c'était comment modifier le design ou la perception du rectangle noir de la télé pour en faire quelque chose qui soit pas moche quand c'est éteint. C'est une question beaucoup plus vaste,
exactement,
en fait.
Exactement. Et en fait, Samsung n'est même pas venu vers nous avec ce problème-là. C'est un problème qu'on a défini comme étant le sujet de ce projet.
D'accord. OK. Donc bon, on va reparler de tous ces sujets, je suis sûr. D'autres objets que tu as designés ?
Dans les projets récents, évidemment, les pixels pour Google, donc les smartphones Google. Spécifiquement Pixel 4, et évidemment, je participe à l'élaboration de quasiment tous les produits Google aussi.
D'accord.
Donc, on a aujourd'hui la gamme des pixels, on a évidemment Nest avec tous les objets connectés dans la maison, allant des thermostats jusqu'aux enceintes connectées, et puis maintenant Fitbit qui vient de nous rejoindre.
D'accord. Et du coup, ça va nous amener là, je pense, à des discussions assez intéressantes dans l'émission, parce que un téléphone, de mon avis de néophyte, c'est le truc le plus difficile à designer qui soit, parce que ça a été tellement réduit à sa plus simple expression. C'est une plaque de verre et de métal, un petit peu comme une télé, mais en pire, toute petite, qui doit se faire oublier autant que possible, ou c'est la tendance actuelle, il semble. Et qui est petite, plate, et sur laquelle il semble ne pas y avoir beaucoup de liberté de design. Alors le Pixel 4 va un petit peu à l'encontre de ce principe, mais d'une manière générale, c'est pas facile de faire des choses intéressantes dans le design des téléphones, si ?
Alors d'expérience, je dirais que les téléphones sont les objets actuels sûrement les plus compliqués à designer, je dirais peut-être même plus compliqués que des voitures, ou égales. Ouais. Donc c'est extrêmement complexe.
D'accord. Donc on va en reparler, et puis tu peux nous dire quelques mots aussi sur Beam Energy, évidemment, qui est la start-up que tu as cofondée, ton activité la plus, je ne sais pas si on peut dire la plus récente, mais qui t'occupe, j'imagine, pas mal.
C'est ça, c'est mon activité la plus récente qui m'occupe tous les matins, c'est pour ça que je me lève tôt, et je collabore avec La France tous les matins. Donc Beam Energy, ouais, c'est un kit solaire modulaire qui permet aux gens d'accéder à l'énergie solaire d'une façon la plus simple. Donc, ils accrochent des panneaux solaires sur leur mur, dans leur jardin, ils branchent ça sur une prise et ils commencent à injecter du courant dans leur maison.
C'est
du courant vert.
Ouais, c'est un truc, c'est une idée qui est intéressante, parce qu'on pose simplement, là, c'est un petit peu la partie où tu nous vends ta start-up aussi, mais ça pose quand même une question de design intéressante, parce que c'est l'idée de comment simplifier, là encore j'ai l'impression qu'on part d'un problème qu'on se pose à la base, et peut-être que ça va former la base du design industriel, mais un problème qu'on se pose à la base et on essaye de trouver des solutions, et c'est ça qui constitue le design. Là, c'est comment simplifier, j'ai l'impression, hein, tu me diras si je me trompe, comment simplifier autant que possible la mise en place de panneaux solaires pour les utilisateurs normaux, et ça implique plein d'éléments de design et de choix techniques, bien sûr, mais qui vont de pair avec le design. C'est ça ?
Exactement, exactement. Dans la conception du produit, en gros, l'attention principale était de trouver le plus de solutions possibles pour rendre l'expérience d'installation du solaire simple et rapide.
Ouais. Donc il y a des trucs comme on l'accroche au mur à l'extérieur de la maison. On branche directement sur une prise de la maison si on veut le faire comme ça, ce genre de choses. Et puis le fait que ça soit pas trop moche non plus. C'est tout ça, c'est du ressort du design industriel, quoi.
Exactement.
Bah parlons, rentrons dans le vif du sujet justement. Quand on a discuté un petit peu par document interposé et mail interposé pour préparer l'émission, tu me dis, le design industriel, surtout en France, c'est quand même vachement l'aspect des produits, l'aspect des objets, la forme de l'objet. En fait, le design industriel, c'est peut-être un petit peu plus vaste que ça. En général, comment est-ce qu'on peut définir le design industriel? C'est quoi? C'est vraiment, comme tu le disais, la forme du truc, c'est ça le design?
La forme du truc, c'est, je pense que historiquement, en Europe en général, il y a cette idée de designer star qui design un canapé magnifique pour la décoration de la maison. Donc, il y a un peu cette historique du design. Mais je dirais que le métier a énormément évolué, particulièrement avec l'avènement des objets technologiques qui ont rendu les produits beaucoup plus complexes et centrés sur l'expérience. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi dire, beaucoup de designers disent merci à Apple pour avoir vraiment donné cette importance au design d'une façon cohésive entre le produit, l'expérience, les interfaces, et aussi dans une entreprise, pour la première fois peut-être, à pousser le designer au plus haut de l'organisation pour avoir la plus grosse influence. Et aujourd'hui, je définirais le design vraiment comme la phase en amont de la conception d'un produit jusqu'à son développement, jusqu'à son lancement. Donc on voit les designers aujourd'hui au plus haut des entreprises. Ça se voit par exemple même chez BIM Energy, où je suis cofondateur d'une boîte et designer aussi. Et on voit le designer vraiment impliqué sur la phase de définition d'un projet, sur la définition d'un brief, jusqu'à la conception, au développement, mais aussi jusqu'au lancement et à la façon dont on va marketer le produit, où on va communiquer dessus. Donc tout est contrôlé par le designer industriel aujourd'hui.
Jusqu'au domaine du marketing et de la façon dont on va communiquer et présenter le produit, c'est intéressant. Je sais que chez Apple, c'est peut-être le cas, mais ça a l'air d'être plus généralisé que ça. Et du coup, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu viens de dire. D'une part, il y a une sorte de transition entre le beau canapé, le beau toaster, ce genre de choses, au moment de l'avènement de la technologie. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de la manière dont les objets technologiques changent ou complexifient l'approche du design. Et puis d'autre part, l'importance d'Apple, qu'on soupçonne un petit peu et qui est parfois un petit peu raillé dans certains cercles technophiles, parce qu'on dit « Ah, le design, ils mettent tout dans le design et puis en dessous, il n'y a que du vent que, », que ça plaise ou non à certains et que ça soit intégral à l'expérience utilisateur ou non. Moi, personnellement, je pense que c'est le cas. Le fait est que ça a une importance majeure et on se souvient tous de ce moment dont je pense, tu vas me dire si c'est le cas dans ta profession vraiment, mais j'ai l'impression que ça a changé complètement l'approche qu'on avait de la chose technologique et du design pour les objets technologiques. C'est la sortie de l'iMac de toutes les couleurs à la fin des années 90, début 2000. C'est là que ça avait vraiment transformé la chose. Donc, une longue phrase pour dire c'est vraiment Apple qui a en majorité transformé l'approche de la tech et du design dans la tech. Donc, excuse-moi, il y a deux questions, en fait. Pourquoi est-ce que la tech, c'est plus compliqué, et est-ce que vraiment Apple a tout chamboulé dans ce domaine?
Alors, la tech est plus compliquée parce qu'elle est en constante évolution. Et donc, tous les produits qu'on design, on vient récupérer ou inventer des nouvelles technologies pour créer des nouvelles expériences. Là où le design d'un canapé ou d'un toaster, en général, utilise des technologies complètement existantes, et vraiment on appelle ça du skin job, donc vraiment un design de surface où on vient juste designer l'esthétique extérieure de ce toaster avec des composants internes qui seraient presque standards, là où aujourd'hui la technologie en fait presque nous force ou nous permet de designer des produits de l'intérieur jusqu'à l'extérieur.
Pour un téléphone, par exemple, c'est peut-être le meilleur exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais en quoi est-ce que le designer va influencer l'intérieur du téléphone? On a les composants dont on sait ce qu'ils sont, la batterie qui prend la taille qu'elle prend. En quoi est-ce que le designer va être impliqué dans la conception interne d'un appareil de ce type-là?
Alors évidemment, si on voit les smartphones comme des simples rectangles noirs, on se dit, bon, il n'y a rien à designer, il n'y a rien à faire. C'est un peu le cas aussi pour les télés Samsung, hein. Si on voit les télés comme des grands rectangles qui vivent dans le salon, on se dit, bon, bah, quelle va être la prochaine télé? Moi, ce que je pense, c'est que si on applique un certain processus créatif et de design, il y a vraiment moyen d'imaginer des produits surprenants, des produits vraiment innovants qui répondent à la fois aux besoins des gens et qui apportent certaines émotions au travers du produit. Concernant les smartphones, j'aime bien dézoomer de ce petit rectangle noir et de définir vraiment trois grands piliers d'action ou de contraintes qui vont être en premier comment ces appareils vont s'intégrer dans la vie des gens, sachant que les smartphones, c'est quand même des appareils qui vivent avec nous du matin au soir et même la nuit à côté de nous. Donc, quand on approche le sujet, on définit vraiment tous les scénarios d'usage et on essaie vraiment de regarder en avant et de définir des futurs usages en relation avec des nouvelles possibilités technologiques et software. Je ne serais pas surpris de voir des changements radicaux dans les smartphones, que ce soit en termes de forme ou d'usage, dans les 5 à 10 prochaines années à venir. Et évidemment, quand on définit ces usages futurs, ce qu'on fait, c'est que étape par étape, on se dirige vers cette vision qu'on a prédéfinie. Le deuxième pilier, qui est aussi très important, il est que les smartphones sont vraiment un concentré de haute technologie. Et le rôle du designer, en fait, c'est de récupérer des technologies existantes ou d'aider à inventer de nouvelles technologies, de combiner et d'intégrer toutes ces technologies très complexes en un package qui va être à la fois compréhensible mais aussi accessible à tous. Et le troisième et dernier pilier, qui est important particulièrement pour les pixels de chez Google, c'est comment on design un produit qui va être le véhicule physique de la marque. Donc là, en tant que designer, tous les détails comptent, que ce soit la forme, les matériaux, les couleurs qu'on donne au produit, pour qu'au final, le smartphone soit vraiment la représentation physique de la marque. À Google, ce qu'on dit souvent, c'est comment on peut faire en sorte que lorsque tu tiens un pixel dans ta main, tu aies vraiment l'impression de tenir Google dans ta main.
Ok, et du coup, si on parle un petit peu de conception, justement, le design industriel, comme tu nous le disais, ça part du tout début du produit. Comment est-ce qu'on part de rien? On se dit, il y a une société qui se dit, bon, bah, maintenant, on va faire, je sais pas, pour rester dans la tech. C'est vraiment, tu sais, je reviens systématiquement au problème de, bah, c'est tous des rectangles noirs, parce que j'allais dire, on va faire une tablette. Mais pareil, une tablette, c'est un rectangle noir, un téléphone, c'est un rectangle noir, mais un produit technologique, je sais pas, un ordinateur, une souris, tiens, disons une souris, imaginons, et on va faire une souris, monsieur le designer, pondez-nous une souris. D'où vous partez? Parce qu'au départ, nous, quand on voit le produit fini, on se dit, ah bah voilà, c'est facile, c'est telle courbe, je comprends bien. Mais au départ, il n'y a rien du tout, il n'y a que des possibilités. Comment est-ce que vous partez pour penser le design d'un produit? Quelles questions vous vous posez? Quel cheminement vous faites pour ce qui est de la conception?
Alors une souris, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu difficile de designer des souris parce que en fait je pense que la souris est arrivée au stade de toaster où l'architecture est à peu près standard. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un bouton droit, un bouton gauche, un bouton du milieu avec plus ou moins de fonctions. Je pense que la souris est assez standardisée pour arriver à un point où le designer va vraiment arriver en mode design d'ergonomie et d'esthétique.
C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, les skin jobs, on design l'extérieur, mais on participe pas forcément à... Enfin, en même temps, ça me surprend parce qu'il y a peut-être justement des opportunités dans ces domaines-là de faire des choses un petit peu différentes. Mais moi qui suis un joueur, tu vois, les souris, je pourrais imaginer, même si la mienne, c'est l'une des souris les plus simples qui
T'as
soient.
raison. Non, t'as raison. C'est vrai que je pense que les souris sont le plus intéressant à designer aujourd'hui dans le gaming, là où on va avoir des joueurs qui ont des attentes très précises. Et donc le process pour designer une souris pour gamer, ça va être les designers vont aller voir des gamers, vont les interroger. vont voir un peu ce que sont les attentes, vont sûrement les filmer même pour voir comment les joueurs utilisent leur souris.
Ah oui,
et par rapport à ça, en fait, ils vont revenir sur leur carnet de dessin et ils vont, donc les designers vont brainstormer, hein, vont imaginer plein d'idées qui potentiellement pourraient répondre à ce qu'ils ont observé sur les gamers. Je ne suis pas très familier avec les souris gamers, mais j'ai vu des produits, peut-être de Logitech, avec des poids différents parce que la souris a besoin de mouvements très particuliers et tout ça, ça a été inventé par les designers.
D'accord. Donc, il y a cette question d'utilisation. Il y a aussi la question que tu évoquais tout à l'heure, la question des valeurs que va communiquer le produit. Il y a un positionnement marketing du produit, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ces autres aspects de valeurs, de positionnement? Comment ça se traduit dans le travail du designer?
Un exemple pour peut-être Beam Energy, quand on a créé le produit, donc évidemment on est parti de rien, on a vu le marché du solaire, on a vu qu'il y avait des problèmes inhérents au marché du solaire, et en fait quand on a commencé à créer le produit, naturellement en créant ces concepts de modules solaires, on s'est dit quelles sont les valeurs de ce concept. Alors la simplicité doit être injectée dans le produit sur tous les aspects de l'expérience. On veut que l'émotion, en fait, quand les gens voient le produit, parce que d'un seul coup, le panneau solaire n'est plus sur le toit, il est sur les murs de la maison ou dans le jardin, il faut qu'il y ait une émotion positive quand on le voit. Donc, il y a un aspect décoratif, évidemment, qui n'était pas présent avant sur des panneaux solaires.
On ne voyait pas vraiment, en fait. Oui, cette utilisation ouais. change la manière dont on perçoit le produit et l'appareil. Ouais.
Complètement. Et ces valeurs et ces émotions, elles ne sont pas hasardeuses sur le produit. Elles sont définies avant même de commencer à prendre un crayon et à sketcher des idées. C'est vraiment des valeurs qu'on pose dès le début, presque comme des contraintes dans lesquelles on va créer et designer. Après, je ne dis pas que toutes les valeurs qu'on pose dès le début sont valides jusqu'à la fin. Il y en a certaines qui sont pas, qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de concept qui se connecte bien avec ces valeurs. Mais en tout cas, on pose vraiment toutes ces valeurs dès le début du projet comme contrainte.
Quoi. Mmh. Et l'aspect positionnement, c'est positionnement marketing, effectivement, ça vous... c'est marrant, je repense évidemment à Apple. On n'a pas vraiment parlé de cet aspect de la chose, mais quand on parle de positionnement et de marketing, Apple essaye toujours de faire quelque chose de premium et c'est quelque chose qu'on retrouve. L'influence d'Apple se retrouve chez à peu près toutes les sociétés de la tech et je suis sûr chez Beam Energy aussi, finalement, ou peut-être que non, je ne sais pas, tu me diras si ce n'est pas le cas, mais. On a vraiment eu ce moment, je reviens à une question que je te posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu ce moment où Apple a imposé le design, est-ce que c'était celui-là, celui des iMac de toutes les couleurs, et qui a montré que le design était important pour ces objets, ou est-ce que ça s'est fait plus naturellement par d'autres biais aussi?
Je pense que le moment où Apple a lancé l'iMac, c'est le moment où le monde, et même Apple peut-être eux-mêmes, on se sont rendu compte de l'importance du design pour le produit.
Au-delà de la tech même, tu veux dire ?
Ouais, je pense, ouais. Je pense. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais à Carrefour et je voyais l'iMac dans les rayons. Et je voulais avoir un ordinateur. Et en fait, il n'y avait qu'un ordinateur dans le rayon qui m'attirait, c'était l'iMac. Et je regardais l'iMac et le prix et j'étais là, mais ce sera impossible pour moi d'acheter un iMac plus tard. même aujourd'hui, enfin c'était le plus cher avec les specs les plus réduites. C'était ça que je voyais. Donc vraiment c'était un statement de design et sûrement l'ordinateur le plus iconique historiquement. Et je pense que voilà, quand Apple a lancé cet iMac, ils se sont rendus compte eux-mêmes que le design avait une importance clé sur la façon dont les gens allaient percevoir le produit. C'est vraiment un ordinateur iconique, coloré, qui a vraiment cassé les codes de l'ordinateur. Et le monde s'est rendu compte aussi que le design était important à ce moment-là.
Mais du coup, ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit peu du marketing, quoi, le design, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais comment est-ce que tu fais pour les appareils dont on parle, des téléphones, des tablettes peut-être même des ordinateurs à la limite portables, je peux comprendre comment on peut les différencier, mais même pareil pour des panneaux solaires, quoi. C'est encore des rectangles ou des carrés noirs, à peu de choses près. Tu veux imprimer un positionnement marketing qui soit premium, accessible, sympathique, etc. Comment tu fais sur ce genre de truc, sur des rectangles noirs, pour faire un positionnement marketing? C'est hyper difficile.
C'est difficile et ça vient aussi naturellement pendant le design, pendant le processus de design. Hein. Souvent, quand on commence des projets, c'est pas vraiment défini quel prix va être le produit, parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment le produit est défini. Hein. On fait partie de la définition de ce produit. Et on a, évidemment, ce n'est pas à nous de dire ce produit va coûter tant, mais on collabore avec les équipes commerciales, marketing, les managers produits pour définir quel est le prix de ce produit. Donc, par exemple, pour la frame de Samsung, ce n'était pas du tout défini quel prix allait être cette frame et est-ce que ça allait avoir un positionnement haut de gamme et être un peu ce tableau d'art qui allait être super cher quand on va dans le magasin et qu'on voit cette pièce d'art. Et en fait, il y a eu une décision à un moment donné qui a été faite. Non, cette télé devrait être accessible à tous et elle ne sera pas plus chère qu'une télé de la même taille chez Best Buy ou chez Boulanger en France.
Du coup, est-ce que, à quel moment est-ce que vous définissez, parce que le prix, c'est quand même hyper important dans cette démarche, mais à quel moment est-ce que la question du prix commence à être évoquée et ça définit certaines de vos contraintes aussi et les matériaux que vous allez utiliser et même au-delà du matériau et des matériels, l'intention que vous voulez donner à l'impression, enfin l'impression qu'on va avoir en le regardant. Donc j'aurais pensé que ça faisait partie des données qu'on avait au début quand même.
Sur certains projets, ça fait partie des données qu'on a au début. Sur des projets où le designer commence initie le produit, c'est le cas chez Google par exemple, hein, quand on design des pixels, le prix n'est pas tout à fait défini dès le début. Ça fait partie de la discussion tout au long du projet et évidemment les choses changent par rapport à la compétition actuelle. Hein. Évidemment, quand on commence un pixel, on commence 2 à 3 ans avant la sortie. On ne sait pas dans 2-3 ans quels vont être les produits sur le marché, hein, quels smartphones seront en compétition avec nous. Donc, c'est très difficile de définir le prix. On a des idées un peu de la gamme dans laquelle on travaille, mais tout peut changer pendant les 2-3 ans de développement. Mmh. Évidemment, les matériaux qu'on choisit au cours du processus de design vont commencer à définir le prix du produit. Hein. Si on commence à designer un produit avec, par exemple, beaucoup de métal, du vrai verre, pas du plastique, tout ça vont commencer à définir un certain prix et une certaine gamme aussi. Si on commence à pousser pour des concepts de téléphone, par exemple, très premium, on sait que le prix va être plus haut et ça se définit vraiment comme ça au cours du process. Et le prix, je dirais, est verrouillé, pas tout à la fin du projet, mais je dirais à mi-chemin dans le projet.
D'accord. J'imagine qu'il y a quand même des cas où on vient vous voir en disant, peut-être pas chez Google ou Apple ou ce genre de boîte, mais chez Samsung, par exemple, on sait que là, ça va être un téléphone de la gamme Galaxy A, et donc il va être plutôt moins cher. Et ça, on le sait dès le début, j'imagine, quand même.
Je suis quasiment sûr qu'il y a des projets qui sont très ciblés prix. Je dirais que c'est un peu moins intéressant de travailler sur ce genre de projet en général quand ils sont déjà complètement sous contrainte dès le début. Créativement, ouais. ça peut être plus compliqué.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors justement, on a tous ces éléments qu'on prend en compte. On a les valeurs, le positionnement marketing, l'utilisation du truc. On finit par avoir un certain nombre d'idées qu'on va vouloir explorer un petit peu plus et qu'on va prototyper. Et donc là, on arrive à une question un peu plus technique, un peu plus tangible. Comment on fait pour prototyper ces appareils? À quel moment est-ce qu'on... Enfin, j'imagine que c'est du rendu 3D à la base, et puis qu'ensuite, on passe à différentes méthodes de prototypage physique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, toutes ces étapes?
C'est un moment super passionnant, évidemment, dans tout le design d'un produit. Le dessin, encore, on passe beaucoup par le dessin pour communiquer des idées. Donc le dessin papier ou sur tablette.
Dessin, tu veux dire, oui, vraiment, on des croquis, quoi.
Des croquis, ouais. Mmh. On dessine et on communique beaucoup en équipe, entre designers, on communique comme ça. Hein. On fait des vues d'ensemble du produit à la main, on fait des détails et puis on communique comme ça. Quand on commence à montrer le design hors des équipes de design, évidemment, on va faire des modèles 3D hein, sur ordinateur. On va faire des rendus 3D, ce qui nous permet d'avoir une visualisation plutôt précise du produit, mais toujours fixe. Donc, on va avoir les couleurs, les matériaux, mais tout ça d'une façon digitale et imprimé soit sur papier, soit sur écran. Donc, on n'a pas vraiment la perception l'aspect tangible de ce produit physique.
Est-ce qu'il y a des choses que vous jetez déjà à cette étape ? Genre, j'imagine que oui, mais quand vous voyez le rendu en 3D, vous dites « Ah ouais, c'était une bonne idée à la base, mais là, vraiment, c'est... Non, ça marche pas ?»
Ah oui. Même à l'étape de dessin, on choisit, parce qu'évidemment, il y a quand même du travail pour faire des modèles 3D. Donc, même à l'étape de dessin, on évalue les idées qu'on a, on en jette beaucoup. Énormément, hein, des dizaines et des dizaines. Et à l'étape de rendu 3D, vu que c'est souvent l'étape où on va sortir le design de l'équipe de design pour aller le montrer à d'autres membres des équipes, on va passer en revue les designs d'une façon plus sérieuse où on va stratégiquement éliminer et choisir les designs qu'on va communiquer. Donc on se retrouve avec, en tout cas sur les projets sur lesquels je travaille, j'aime bien vraiment éliminer le plus de design possible et de se focaliser vraiment sur les meilleurs concepts qui ont le plus de potentiel, parce que c'est vraiment que le début du projet. On sait très bien que même si on a 3 concepts qu'on présente, chaque concept peut se décupler en plus d'idées, parce qu'il va y avoir plein de problèmes d'ingénierie et de contraintes qui vont venir sur chaque design. Donc tout peut évoluer par la suite. Et donc, quand on a besoin de commencer à voir le produit, et ce qui est hyper important et le plus tôt le mieux, on vient prototyper le produit. Donc, grâce aux modèles 3D qu'on a déjà pour le rendering 3D, on va utiliser ce même modèle 3D pour faire rapidement des impressions 3D. Donc, il y a évidemment plein de technologies différentes dans les impressions 3D avec différents niveaux de qualité et de rapidité et de coût. On vient faire des impressions 3D qui vont nous permettre de voir un modèle physique sans les vrais matériaux. Donc souvent, c'est une couleur où on peut mixer quelques couleurs ensemble, mais le matériau, hein, c'est du plastique. Donc, on ne contrôle pas l'aspect de surface, on ne contrôle pas la finition. Souvent, on a des contraintes mécaniques sur ces impressions 3D très limitées aussi.
J'imagine que, je ne sais pas si toi, quand tu as commencé, l'impression 3D était vraiment utilisable déjà, mais ça, j'imagine que ça a complètement transformé le prototypage. Je ne sais pas comment vous faisiez avant, vous preniez des morceaux de bois que vous rabotiez pour obtenir la forme qu'il fallait, mais ça a dû beaucoup changé la facilité du prototypage, en tout cas de la forme, l'impression 3D, non ?
Alors complètement. Alors moi, quand j'ai étudié à l'école de design, à l'époque, on n'avait pas d'imprimante 3D. Donc ça arrivait juste quand j'ai commencé ma carrière. Donc à l'école, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait de la mousse, hein, des blocs de mousse, et puis on les ponçait pour représenter le plus précisément possible les formes qu'on essayait de communiquer. Ce qui était plutôt laborieux niveau temps, c'est poussiéreux aussi, hein, on travaille avec les masques, tout ça, ouais. Donc ça a quand même révolutionné la façon dont on prototype.
Du coup, quand il y a des jeunes designers qui travaillent avec toi, tu leur dis « Ah, tu sais, moi quand j'étais jeune, on n'avait pas les choses aussi faciles
ouais. ». Ah ben les jeunes designers, ouais, je suis là, mais moi tu sais que j'avais pas d'imprimante 3D, hein. On était avec les masques dans la poussière en train de penser. Ça, au niveau de l'imprimante 3D, c'est quand même un process. J'ai vu toute la tendance de... On imagine que tout le monde va avoir une imprimante 3D à la maison comme on a une imprimante à papier. Je pense qu'on est quand même encore très loin de ce stade parce que c'est pas comme un document qu'on reçoit par email qu'on veut imprimer. Là, on a quand même des... Il faut certains logiciels pour ouvrir les fichiers 3D. Si on veut créer ses propres fichiers 3D, il y a quand même des logiciels à apprendre de conception de 3D qui sont quand même super spécialisés. Même imprimer en 3D, ça prend énormément de temps. Et je dirais même, ce qu'on imprime en 3D, c'est pas des produits utilisables. Pour la plupart du temps, c'est des représentations physiques d'un potentiel produit, mais il n'y a aucun usage quasiment possible de ces produits, parce que les contraintes mécaniques, même la durabilité de ces matériaux, je vois des fois je vais dans les archives et je vois des impressions 3D qui ont presque, je dirais pas moisi, mais qui se sont liquéfiées, qui
donc
c'est pas des matériaux qui sont stables pour la longue durée et qui sont même utilisables.
Oula, j'imagine qu'il y a quand même différents types de matériaux qu'on peut imprimer. Moi, j'avais entendu parler de plastique comparable à ce qu'on a dans les blocs Lego, ce genre de choses, qui durent très longtemps. C'est pas, tu n'as pas vu ce genre de matériaux, toi, de ton côté ?
C'est comparable peut-être à des Lego, mais je pense qu'on est encore loin quand même, parce qu'on a un process de fabrication avec les Lego. C'est de l'injection haute pression de plastique avec une stabilité dans le temps qui est très élevée, alors que de l'impression 3D, vu la façon dont c'est fait, j'ai du mal à voir comment on pourrait avoir quand même une qualité de pièce Lego durable dans le temps.
Ouais, d'accord. Ouais. Oui, l'impression 3D, c'est qu'on pose couche par couche les couches du produit, et même si elles sont très fines, bah oui, il n'y a peut-être pas une telle densité, une pression assez forte pour avoir cette solidité. Donc vous imprimez en 3D, qu'est-ce que vous faites d'autre pour prototyper ?
Un autre moyen de prototyper, c'est ce qu'on appelle le CNC, c'est en gros du fraisage d'acrylique. Donc on prend des blocs d'acrylique ou d'aluminium et on vient les fraiser. Donc on vient les fraiser de façon super précise, hein, c'est ce qui nous permet en fait de contrer un peu l'aspect moins précis de l'impression 3D. Donc on vient découper dans ces blocs avec des fraises. C'est un process qui peut prendre un peu de temps, hein, parfois quelques jours selon la taille des pièces et le niveau de complexité.
C'est pas fait par ordinateur tout ça ?
Alors c'est fait par ordinateur, hein, bien sûr. Donc on envoie les fichiers 3D à des ateliers spécialisés. À Google, on a la chance d'avoir notre propre atelier avec une quinzaine de personnes qui travaillent à plein temps pour nous assister là-dessus, ce qui est génial. Et donc, les fraiseuses viennent découper ces blocs en produits très précis. Et alors là, pareil, donc on a un produit, un bloc très solide avec tous les détails qu'on veut. Ça nous permet d'évaluer vraiment les détails, la taille des produits d'une façon très précise. Mais on n'a toujours pas les matériaux. On n'a toujours pas les matériaux finaux du produit. Donc, en général, on a un bloc d'une couleur où on peut assembler différentes pièces ensemble, mais on est quand même limité sur l'impression générale du produit. Et donc, la troisième façon dont on prototype du côté design, c'est, on appelle ça les cosmetic models, donc les maquettes esthétiques, qui vont être des représentations fidèles au design qu'on a imaginé. Et donc là, ça va être un mélange de maquettes CNC, aluminium ou acrylique qui vont venir être assemblées ensemble. Et donc, on a une équipe qui vient peindre les pièces avec la bonne texture. Et donc, on a un modèle complètement fidèle, complètement ressemblant au produit final, qui peut avoir évidemment des limitations mécaniques. Par exemple, imagine un ordinateur portable, on peut arriver à avoir la charnière qui permet à l'écran de s'ouvrir, on peut avoir les touches du clavier qui se tapent. Par contre, on n'aura pas les composants internes. Parfois, sur certains projets, on a des composants clés, par exemple des lumières ou des éléments qu'on veut vraiment communiquer. On va réussir à développer ça rapidement en mode prototypage et à intégrer ça dans cette maquette. Mais on est vraiment sur un produit esthétique et non fonctionnel.
D'accord. Du coup, j'imagine que ces étapes, c'est vraiment des étapes, ça augmente la complexité du prototype. Tu me dis si je me trompe, mais j'imagine qu'au début, bon, en impression 3D, on peut en faire une dizaine, quel que soit le nombre qu'on en fait. Plus on monte dans la complexité, moins on va en avoir et plus on garde que les candidats les plus prometteurs.
Exactement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les impressions 3D, on peut en faire presque à l'infini, c'est rapide et c'est pas très cher. Et plus on va vers des modèles fidèles, plus le temps de production augmente. Évidemment, un modèle esthétique, une maquette esthétique va prendre, je dirais, une semaine à deux semaines à fabriquer. Évidemment, ça prend beaucoup de temps, ce qui peut être parfois... Il faut être très stratégique aussi avec la façon dont on fait ces maquettes, parce que quand on est en plein processus de design et de création et qu'on veut valider quelque chose sur une maquette cosmétique mais qu'elle arrive dans deux semaines, on a deux semaines quand même pour imaginer d'autres idées qui vont rendre...
pour tout changer.
Pour tout changer et rendre ce modèle obsolète. Donc quand il arrive, on est déjà passé à autre chose. Donc il faut être quand même stratégique sur la façon dont on visualise tout ça.
Tiens, une question un petit peu annexe. Entre le début du projet et les modèles, les maquettes esthétiques, après combien de temps on passe à chacune des étapes? C'est-à-dire, depuis le début du projet, imaginons que c'est un projet, tu disais, on commence à travailler 2-3 ans avant la fin. Déjà, j'imagine que la fin, ça veut dire on a le hoquet final et on peut lancer la fabrication des appareils et ce n'est pas la sortie. Donc, la fin de votre travail, ce n'est pas le moment de la sortie du produit ou même de sa présentation. Mais combien de temps il se passe sur lequel vous travaillez en dessin ou en croquis? Puis combien de temps vous êtes sur des modèles 3D? Combien de temps sur l'impression 3D? Combien de temps sur le CNC, etc.? Tu as une vague idée de ça ou...
Oui, complètement. Je dirais que le process n'est pas vraiment défini par... Le prototypage, en fait, ne définit pas vraiment le process de design. On planifie le process de design sur d'autres critères que le prototypage en lui-même. Mais en général, je dirais qu'il faut environ 6 mois de design d'un concept à la main jusqu'à un design qui est prêt à être validé et verrouillé. Donc environ 6 mois intensifs de création. On passe en général à peu près 1 mois sur des phases de sketch et d'idées. Et ensuite, on va... C'est du back and forth. Donc, on va...
Des allers-retours.
Voilà, allers-retours entre différents types de prototypage jusqu'à la validation du design.
Mais attends, tu me dis 6 mois? C'est beaucoup plus court que j'imaginais. J'ai cru comprendre que ce type d'appareil était, surtout quand on est dans des cycles annuels, on prépare celui de 2 ans, de 2 ans plus tard, et ça ne prend vraiment que 6 mois, et après on passe au suivant?
Non, ça prend 2 ans, mais ça prend 6 mois pour que l'équipe design ait une idée claire vraiment du produit qui va être fait, et donc avoir une maquette cosmétique, hein, une maquette esthétique qui va être prête à être verrouillé. Donc, on appelle ça le design lock. Le design est validé par tout le monde est d'accord, c'est le design qu'on va faire. Et ensuite, on a 1 an et demi à 2 ans de développement où on va collaborer. Évidemment, les designers vont collaborer avec, même si la collaboration avec les ingénieurs commence bien avant, là, ça va être une collaboration intensive où on passe le design aux ingénieurs et ils prennent le relais et commencent à intégrer tous les composants dedans. Ils sont prêts ou non, hein, parfois les composants sont prêts plus tard. Et donc, il y a environ 2 ans, 1 an et demi à 2 ans vraiment d'échange entre designers et tous les autres corps de métier pour faire en sorte que ce design va sur le marché. Et en général, entre cette phase où on verrouille le design à 6 mois et le lancement du projet, on a quand même des changements significatifs. Sur le design. Donc, il y a énormément de changements. Les ingénieurs viennent et nous disent « Non, c'est pas possible, ça va pas marcher. » Ou le département qualité vient et nous dit « Non, là, le design, il casse, il faut revoir ça et ça. » Donc, il y a énormément d'échanges. Et c'est la phase de développement, en fait. Donc, la phase vraiment conceptuelle, 6 mois, et développement, 1 an et demi à 2 ans.
D'accord. Moi, j'imaginais qu'une fois qu'on avait le design validé, le design lock, les designers retournaient dans leur grande salle de méditation blanche, tu vois, où ils réfléchissent au sens de la vie et on leur amenait des modèles ou des prototypes et ils disaient « Oui, ça, c'est bon. Non, ça, c'est pas bon. » En fait, non. Tu me dis que le boulot continue parce que les choses continuent à changer, quoi.
Exactement. Et ouais. Donc, tous les designers bossent sur plusieurs projets à la fois, donc... Il y a sûrement une part de... Quand le projet part en développement, un designer peut continuer à collaborer, évidemment, pendant 1 an et demi, 2 ans sur ce projet pour faire en sorte que l'intention design est préservée jusqu'au bout ou elle est transformée de la bonne façon. Et évidemment, on peut commencer à aussi travailler sur des projets plus futurs à ce moment-là.
J'imagine qu'il y a des moments de clash intense aussi où les différents intérêts de la boîte et des départements se font valoir leur importance, comme dans tous les domaines de toutes les boîtes du monde. Et il y a des moments où les designers doivent taper du poing sur la table pour dire « Non, mais ça, je t'assure, c'est vraiment important. » J'aurais bien aimé être dans certaines réunions de design, enfin de discussion sur certains designs, de pourquoi on choisit ceci ou cela, mais oui, j'imagine qu'il y a aussi des moments un peu moins...
Ah, c'est inévitable. Je pense que chaque projet a ses moments de tension. Comme tu le dis, ça peut taper du poing sur la table. Moi, j'aime bien ces moments parce que c'est des moments où, en fait, on se dit, là, on est sur quelque chose d'innovant. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'innovation. Et en général, l'innovation vient de ces tensions, de ces moments où les choses sont plus difficiles que normales. et je pense qu'elles sont nécessaires pour faire des projets innovants.
Il y a des moments où tu avais une intention de design vraiment spécifique et où quelqu'un a réussi à te convaincre que ce n'était pas la bonne idée, ou toi, tu étais complètement amoureux de ton produit. Il y a une expression que j'aime beaucoup, dont on parle dans le cinéma et dont je parle de temps en temps dans mes émissions, c'est l'idée qu'il faut... bon, c'est un peu sombre comme expression, mais il faut « kill your babies ». C'est tuer tes bébés, donc les idées auxquelles tu es très attaché, dont tu penses qu'elles sont formidables, au bout d'un moment, quand tu te rends compte que ça ne marche pas, ça a beau être aussi formidable que possible, dans le contexte du film que tu essayes de faire, de l'histoire que tu essayes de raconter, ou de l'œuvre que tu essayes de mettre en place, bah, faut les abandonner. J'imagine qu'il y a des moments comme ça aussi pour les designers.
Oh, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent et c'est aux designers d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on nous dit et de savoir vraiment de peser les pour et contre et d'être pas non plus 100% attaché à nos idées. Je peux donner un exemple les plus récents cette semaine. Chez Beam Energy, par exemple, on était en train de designer la nouvelle, on l'appelle la Beam Box. Donc, c'est un petit boîtier qui se trouve pas loin sur le câble, pas loin de la prise. Ce petit boîtier contient des composants, dont une antenne Wi-Fi qui permet d'envoyer les données de production au routeur Wi-Fi de la maison, d'envoyer ces données de production au serveur de Beam et de les renvoyer sur une application dédiée. Et donc, on est en train de redesigner ce boîtier. Et donc, mon idée ici, c'était d'avoir un boîtier très, très user-friendly, très approchable, avec des belles courbes et le logo, le logo Beam, qui est une espèce de soleil en forme de fleur. Ce logo qui vient s'illuminer au moment où l'utilisateur branche la prise dans le mur et que le courant commence à passer. Donc, le logo apparaît. Et donc, on est arrivé jusqu'à la phase de prototypage de ce design. Et donc, évidemment, avant de partir en production, en usine, on a fait des tests utilisateurs et on s'est rendu compte que le design marchait pas du tout. Les utilisateurs nous ont dit, on dirait une plaque de cuisson qui s'allume, c'est alarmant. Et donc, là, c'était un peu...
Ça doit être dur à entendre quand même.
Ah ouais, surtout dès le matin, dès le matin tôt pour moi. Donc évidemment, là, j'ai dû reprendre un crayon et refaire un design qui fonctionnait.
D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on arrive plus ou moins au bout de notre discussion. Il y a quand même un sujet que tu proposais d'évoquer qui me paraît intéressant. C'est vrai qu'on a un style qui semble être plus minimaliste qu'il y a quelques... J'ai presque envie de dire il y a quelques décennies. On est vraiment dans le minimalisme, dans la simplicité. Et moi qui vis dans les pays nordiques, tout est blanc, idéalement dans la maison et aussi simple que possible. C'est... Oh, on va encore parler d'Apple, mais c'est un petit peu la tendance qu'ils ont imposée. C'est la tendance générale du moment. Il y a des gens qui s'en éloignent un petit peu, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les styles prédominants aujourd'hui et sur cette question de minimalisme qui est, qu'on a l'impression de retrouver un petit peu partout ?
Oui, oui. Alors, historiquement, le style minimaliste dans l'architecture et le design est venu au début du siècle dernier. Et donc, Mies van der Rohe, qui était un architecte allemand, a posé ces principes de design qui s'appelaient « less is more », hein, c'est bien connu, « moins, c'est plus ». Et c'est des principes qui ont été utilisés par Apple énormément, et évidemment qui sont répandus dans la main de tout le monde avec les iPhones. Évidemment, Apple a une énorme influence pour démocratiser ce design minimaliste. Ça ne veut pas dire que toutes les boîtes suivent ça. On voit évidemment, Google prend un style bien plus différent qui est, je pense, plus humaniste, plus expressif, plus coloré, plus chaleureux et approchable. Ce que je trouve très bien, hein, d'avoir de la diversité dans les différents styles de design et pas que tout le monde fasse du minimalisme.
Donc tu penses que le style minimaliste imposé par Apple est... Enfin, la question que j'ai envie de te poser, et je sais que tu vas me dire que non, mais est-ce que c'est mieux de faire les choses de manière un petit peu minimaliste ? Parce que quand on dit minimalisme, j'ai l'impression qu'on dit on rajoute pas des choses qui sont pas nécessaires. Et du coup, moi j'aurais tendance à penser, bah oui, il vaut mieux ne pas rajouter des choses qui sont pas nécessaires. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe un peu dans mon interprétation ?
Non, je pense que tu as raison là-dessus, et surtout dans un moment où les responsabilités des designers au niveau de l'environnement sont si importantes. Je pense que less is more, c'est toujours un principe valable est plus valable que jamais actuellement, où le but, c'est pas d'ajouter plus, mais de faire les choses de façon super responsable d'un point de vue écologique, hein, sur les produits qu'on fabrique, parce qu'évidemment, il y a un énorme impact sur l'environnement. Donc, ajouter le moins possible, c'est toujours des principes, je pense, sur tous les produits que je design, c'est des choses que j'essaie d'injecter, vraiment sur tous les produits, donc less is more, et d'être le plus minimaliste possible. Ça ne veut pas dire que quand on fait un design le plus minimaliste possible, on n'est pas capable d'exprimer les choses d'une autre façon.
Le minimaliste, ça ne veut pas forcément dire blanc et noir, une couleur unie.
Exactement.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Arthur. J'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de ce qu'on voulait dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer que j'ai oubliées avant que tu nous dises où on peut te retrouver ?
Non, on a fait le tour. Là, je regardais les notes et on a traversé tout. Donc super, on avait un peu peur qu'on loge pas tout ça en une heure, mais on a logé ça en une heure pile.
Écoute, parce qu'on a un style de podcast minimaliste, on ne garde que ce qui est important, mais on a quand même une certaine chaleur et une couleur qui s'installe avec notre humour et notre convivialité, donc c'est parfait. Un podcast expertement designé. Et justement, en parlant de design expert, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, toi, d'une part, et puis peut-être aussi BIM Energy, dont on n'a pas précisé que c'est BEEM, BIM, et pas BEAM. Donc, important à savoir.
Alors, on peut me retrouver évidemment sur arthurkenzo.com, mon site internet, où vous verrez certains des projets que j'ai designés, et puis vous pouvez me contacter aussi via mon site. Sur Instagram également, donc by.arthurkenzo. Et évidemment, vous pouvez retrouver mon projet le plus récent sur bimenergy.fr, bim, B-E-E-M, et énergie avec un Y.
Bien sûr. On mettra les liens dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Arthur, d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et bah, pour le reste de l'été, moi, je suis Patrick Béja, NotePatrick, sur notepatrick.com, pour avoir tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, Super Laser Punch, pour parler de formidables séries et films Marvel, entre autres. Et puis, je suis possiblement un petit peu en vacances en ce moment, mais il y a quand même des émissions. Et puis, on revient très bientôt pour la suite. Donc, on sera de retour et on se retrouvera très, très bientôt pour l'actu de la tech, évidemment. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.